Ramuncho, première partie, chapitre 19. Voici venir les longs crépuscules pâles de juin, un peu voilés comme ceux de mai, moins incertains cependant et plus tièdes encore. Dans les jardins, les lauriers roses de pleine terre, qui commencent à fleurir à profusion, deviennent des gerbes magnifiquement rosées. À la fin de chaque journée de labeur, les bonnes gens s'asseyent dehors, devant les portes, pour regarder la nuit tomber. La nuit qui bientôt embrume et confond, sous les voûtes des platanes, leurs groupes assemblés pour de bienfaisants repos. Et de tranquilles mélancolies descendent sur les villages pendant ces interminables soirs. Pour un Muncho, c'est l'époque où la contrebande devient un métier presque sans peine, avec des heures charmantes, marcher vers les sommets, à travers les nuages printaniers, franchir des ravins, errer dans des régions de sources et de figuiers sauvages, dormir, pour attendre l'heure convenue avec les carabiniers complices, sur des tapis de menthe et d'œillets. La bonne senteur des plantes imprégnait ses habits, sa veste jamais mise qui ne lui servait que d'oreiller ou de couverture. Et Gracieuse, quelquefois, lui disait le soir, « Je sais la contrebande que vous avez fait la nuit dernière, car tu sens les menthes de la montagne au-dessus de Mendiaspi, ou bien tu sens les absinthes du marais de Subernoa. » Elle, Gracieuse, regrettait le mois de Marie, les offices de la Vierge dans la nef parée de fleurs blanches. Par les crépuscules sans pluie, avec les sœurs et quelques grandes de leur classe, on allait s'asseoir sous le porche de l'église, contre le mur bas du cimetière, d'où la vue plonge dans les vallées d'en dessous. Là, c'était des causeries, ou bien de ces jeux très enfantins, auxquels les nonnes se prêtent toujours si volontiers. C'était aussi des méditations longues et étranges, quand on ne jouait pas et qu'on ne causait plus. Des méditations auxquelles le déclin du jour, le voisinage de l'église, des tombes et de leurs fleurs, donnaient bientôt une sérénité détachée des choses et comme affranchie de tout lien avec les sens. Dans ses premiers rêves mystiques de petite fille, inspirés surtout par les rites pompeux du culte, par la voix des orgues, les bouquets blancs, les mille flammes des cierges, c'étaient des images seulement qui lui apparaissaient. Il est vrai de très rayonnantes images, autels qui posaient sur des nuées, tabernacle d'or d'où vibraient des musiques et d'où venaient s'abattre de grands vols d'anges. Mais ces visions-là, maintenant, faisaient place à des idées. Et l'entrevoyait cette paix et ce suprême renoncement que donne la certitude d'une vie céleste ne devant jamais finir. Elle concevait d'une façon plus haute que jadis la mélancolique joie d'abandonner tout pour n'être qu'une partie impersonnelle de cet ensemble de nonnes blanches ou bleues ou noires qui, des innombrables couvents de la terre, font monter vers le ciel une immense et perpétuelle intercession pour les péchés du monde. Cependant, dès que la nuit était tombée tout à fait, le cours de ses pensées redescendait chaque soir fatalement vers les choses enivrantes et mortelles. L'attente, la fiévreuse attente, commençait, de minute en minute, plus impatiente. Il lui tardait que ses froides compagnes aux voiles noires fussent rentrées dans le sépulcre de leur couvent, et d'être seule dans sa chambre, libre enfin dans la maison endormie, prête à ouvrir sa fenêtre pour guetter le bruit léger des pas de Raymond. Le baiser des amants, le baiser sur les lèvres était maintenant une chose acquise, dont il n'avait plus la force de se priver. Et il le prolongeait beaucoup, ne voulant ni l'un ni l'autre, par scrupule et par pudeur charmante, s'accorder davantage. D'ailleurs, si l'enivrement qu'il se donnait ainsi était bien un peu trop charnel, il y avait entre eux cette tendresse absolue, infinie, unique, par laquelle toutes choses sont élevées et purifiées.